gris du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, Armand Dubois micro. Aujourd'hui, au gré du temps, nous accueillons pour une seconde fois un amant de la musique. Si nous voulions le présenter très sérieusement, on s'attarderait à dire qu'il est docteur en musicologie de l'Université de Montréal et qu'il a fait sa thèse sur l'œuvre de Robert Schumann, qu'il est aussi l'auteur d'une biographie, dis-je bien, de la cantatrice canadienne Emma Albany, qui est parue en février 2000 aux éditions Lydec. Nous pourrions aussi dire que depuis 2006, il assume la direction des communications, des projets spéciaux et de l'éducation à l'Opéra de Montréal et qu'il a été traducteur pendant une dizaine d'années à Toronto et à Montréal. Mais je préfère simplement dire qu'il aime la musique, qu'il sait transmettre ce plaisir grâce à ses qualités de grand communicateur. Avec nous, Pierre Vachon. Rebonjour, Monsieur Vachon.
Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir.
On est très heureux de vous revoir, de vous réentendre à ce micro, puisque la dernière fois, lors de votre passage, vous nous avez fait découvrir votre passion pour le violon, pour Schumann. Et faut dire que vous connaissez bien le micro de Radio Ville-Marie.
Oui, oui. Oui, vous avez raison, parce que ça fait quand même quelques années que j'anime des émissions musicales, mais aussi depuis deux années, surtout l'émission sur l'opéra, qui s'appelle Raconte-moi l'opéra, les dimanches soirs, qui maintenant, cette émission est diffusée le dimanche après-midi, où là, je suis chroniqueur, disons. Mais c'est vrai que le micro, j'adore le micro, c'est une drogue.
Et vous l'avez fait autrefois, à l'antenne de Radio-Canada.
Oui, tout à fait. Pendant 10 ans, en fait, à la défunte chaîne, chaîne culturelle. Ça m'a toujours fasciné, la radio. Moi, je suis un amoureux de la radio. Quand j'étais jeune, j'enregistrais les émissions. Adolescent, j'écoutais les émissions. J'étais rivé à mon poste de radio. Et je trouvais ça fascinant, cette complicité, cette intimité qui se crée.
La proximité,
justement. Oui. Ce qu'on ne trouve pas quand on a la télé ou autre chose. Et je me suis dit, un jour, si je peux y travailler, j'aimerais ça. Et c'est comme ça qu'au fil des années, finalement, la chance s'est présentée et que j'étais chanceux parce que pour la musique qui m'intéresse, la musique classique, j'ai une voix qui correspond bien à cette musique-là. Et on dit, bon, oui, ça va, ça ne jure pas par rapport à la musique. On m'a donné une chance et puis je suis resté 10 ans.
Vous avez bien sûr une très belle voix, mais vous avez aussi, surtout, une grande connaissance de cette musique. Mais par-dessus tout, cette passion que vous savez communiquer, vous semblez bien sûr animé par ce désir de vouloir transmettre le plaisir que vous éprouvez vous-même. J'imagine que c'est ce qui fait la qualité d'un bon communicateur comme vous l'êtes.
Merci. Merci, vous êtes très, très aimable. Mais je vous dirais que j'ai toujours été obsédé par la connaissance du sujet. Quand la radio m'a intéressé au départ, je me suis dit, je ne me vois pas prendre le micro et ne pas savoir de quoi je parle. Et ce qui m'intéressait, c'était les émissions musicales, de faire comprendre, d'apporter, d'être la courroie de transmission de cet art, de cette musique si belle, de dire à tout le monde, il faut que vous y goûtiez. Écoutez ça, ne serait-ce que 2 minutes, vous allez voir à quel point ça change une vie. Et là, par contre, je me suis dit, ça prend des connaissances. Et donc, pour être à l'aise, pour communiquer dans mon sens, c'était essentiel pour moi d'acquérir ces connaissances, d'étudier. Et pour moi, j'ai toujours été très, très insécure sur les connaissances, surtout. J'ai toujours douté de moi très, très longtemps. Et c'est pour ça que les études ont été un atout essentiel pour prendre des connaissances, mais prendre de l'assurance par rapport à ce que je connaissais, explorer, me donner des outils pour être capable de mieux saisir et surtout de ne pas rester en surface des choses. Parce que en musique, tout le monde aime de la musique, tout le monde écoute de la musique, on en entend partout, dans les centres d'achat, dans les cinémas, n'importe où. Alors je me dis, si j'ai à parler de musique, qu'est-ce qui me distinguerait de quelqu'un qui dit « ben oui, j'aime beaucoup ». Oui, on peut aimer, mais pourquoi est-ce qu'on aime? Et c'est là que je me disais, tiens, c'est intéressant, cette espèce de jonglerie intellectuelle.
Mais il y a une quête de sens.
Il y a une quête de sens, oui. J'ai envie de ça, de plonger, de comprendre, de déstructurer, d'aller au cœur des choses. Et c'est là où ça rejoint aussi mon amour pour la traduction, parce que la traduction, il faut aller à la source des choses pour comprendre les choses, comment elles sont faites, pour pouvoir les exprimer et les rendre le plus fidèlement possible.
Alors, pour tester vos connaissances, si je vous dis Marie-Louise Emma Cécile La Jeunesse,
je vous dirai Emma Albany.
Et Emma Albany a été une cantatrice célèbre.
Oui, tout à fait. C'était la première grande diva canadienne. On oublie que le Canada a connu, a eu des artistes qui l'ont porté, enfin qui ont porté le nom du Canada un peu partout. Oui. Emma la jeunesse, Emma Albany, une fille de Chambly.
Chambly, voilà.
Qui en 1840, elle est née en 1846 et qui en des années 1869 exactement débarque en Europe et tout d'un coup fait un tabac. On est fasciné par cette voix venue du froid, issue du ciel, comme on disait. Et puis, elle commence une carrière. Elle va devenir une des grandes, grandes divas, toutes nationalités confondues. Elle va devenir, dans le fond, la Céline Dion ou la Callas de son époque. Et c'est une Québécoise qui va rester toujours fidèle à son pays et qui va vivre en Angleterre beaucoup. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme sujet pour rappeler à notre mémoire ce grand talent qu'a été Emma Albany.
Est-ce qu'il reste de nombreux enregistrements?
Pas beaucoup, non, parce que quand Emma Albany s'est retirée de la scène, l'enregistrement commençait à peine. Et donc,
on était sur les rouleaux de cire.
On était sur les rouleaux de cire, effectivement, les années 1903-1904. Donc, elle a enregistré 9 titres au total. Et donc, et c'est sur la fin de sa carrière qu'elle a enregistré ça, parce qu'elle s'était même retirée de la scène en 1896. Et donc, c'était quelques années après. Elle continuait à chanter un petit peu ici et là, mais la voix déjà était un peu plus lourde, moins souple, etc. Mais on a quand même une bonne idée de l'étoffe de la voix d'Emma Albany, de la légèreté de son style surtout. Et puis oui, ça a été une autre passion, ça, Emma Albany.
Alors, c'est un enregistrement, peut-on dire, rarissime, qui a été remis en quelque sorte sur le marché plus récemment.
Nettoyé, renumérisé, comme ils disent, etc. Et puis, ça a été retravaillé, effectivement. Donc, ça permet de saisir assez bien, quand même, Emma Albany. Et je vous ai proposé Souvenir du jeune âge parce que Emma Albany, donnait beaucoup de rappels. Les gens l'applaudissaient, les gens étaient admiratifs devant ce talent, vraiment comme Callas ou Céline Dion. Et elle chantait systématiquement Souvenir du jeune âge lorsqu'elle chantait en rappel.
Et c'est un extrait de l'opéra Le Pré au Clair de Louis-Joseph Ferdinand Hérold.
Oui, tombé dans l'oubli complètement.
Oui, qui est mort jeune, à 42 ans de la tuberculose, mais qui a écrit quand même quelques opéras bouffes ou comiques.
Oui, c'est ça. C'est de la musique opéra bouffe, opéra comique, disons, opéra léger français, ensuite 19e siècle, dans une certaine tradition. Et puis, c'est pas de la musique qui est devenue une musique importante, mais disons que c'est un témoignage, surtout, des talents d'artistes et de cantatrices d'Emma Albany.
En fait, il a fait des concertos pour piano et orchestre, mais 27 opéras comiques, dont 2 très célèbres, La fiancée de marbre et cet extrait, Le Pré au Clair. Ouais. Alors, on écoute Emma Albany. Portez attention, parce qu'il s'agit d'un enregistrement qui a maintenant plus d'un siècle. C'est toujours fascinant de réentendre, j'allais dire, d'aussi vieux enregistrements, parce qu'il y a comme une capture du temps. d'un personnage qui a été célèbre en son temps, Emma Albany. Vous disiez que ça a été probablement la première cantatrice canadienne à faire une carrière. À l'époque, on pouvait parler quand même de carrière internationale, même
ah
si
oui, oui, tout à fait.
L'avion oui. n'était peut-être pas aussi accessible.
Mais le bateau et le train existaient.
Voilà.
Ah oui, il a parcouru le monde, Emma Albany. Il est allé jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il a même chanté l'hymne national néo-zélandais dans une fête de la Confédération. Elle s'est promenée, elle est allée aux Indes aussi. Elle a voyagé partout. Elle est revenue 9 fois en tournée au Canada. Elle n'a jamais oublié son pays. Donc, elle a vraiment connu la carrière internationale. À l'époque, il se ménageait beaucoup parce que prendre le bateau pour traverser d'un pays à l'autre, traverser l'Atlantique, bon, ça prenait 10 jours, ça prenait 2 semaines. Donc, il pouvait se reposer et donc, il pouvait se ménager pour faire des carrières assez, assez importantes et longues.
Elle a vécu en Albany, je crois, dans l'État de New York.
Oui, quand elle était jeune, mais son nom n'a rien à voir avec ça.
Absolument pas.
Absolument pas. D'abord, elle l'écrit avec un I. Oui. Donc, à la manière italienne. Et en fait, oui, elle a vécu très jeune, comme beaucoup de Québécois qui se sont exilés vers les États-Unis pour y trouver du travail. Son père aussi, voyant que le Québec n'avait pas ce qu'il fallait pour encourager le talent musical, n'avait pas d'école, de conservatoire, etc. Son père était musicien, il dit, il faut absolument qu'on aille dans une ville où on peut dans le fond, pousser ce talent musical. Alors, il est allé jusqu'à Albany. Albany, à ce moment-là, dans l'État de New York, était une sorte de capitale musicale. Il y avait une vie musicale importante, donc les gens venaient d'un peu partout, les gens passaient par Albany, il s'y rend là, elle va travailler, va être organiste à l'église de Saint-Joseph, elle va continuer à travailler là, chanter, etc., etc., et c'est là, dans le fond, qu'ils vont passer 4-5 ans, où elle va parfaire ses études, et puis c'est à partir de là qu'elle va aller en Europe, et c'est son professeur italien qui lui dit, tu sais, Emma, la jeunesse, c'est pas très vendeur sur la scène. Il y a un nom italien qui est Albany, dont il ne reste qu'un cardinal. Alors, pourquoi tu ne prendrais pas le nom de scène de Albany, de cette famille italienne, pour garder la mémoire vivante de cette famille? Alors, c'est ce qu'elle a fait.
Vous qui êtes spécialiste des communications, c'est ce que vous auriez sans doute fait également.
J'aurais proposé la même chose.
Ou peut-être un nom allemand.
Malgré qu'à l'époque, l'Italie était une des bien terres sûr. Très, très, très fertiles en chant.
Une autre, parce que vous qui connaissez si bien l'opéra, quand il est question de cantatrice, de grande dame de l'opéra, il y a une incontournable dans l'histoire du 20e siècle qui, c'est presque une icône, c'est Maria Callas.
Oui, oui, tout à fait. C'est unique dans l'histoire de la musique, dans
Pourquoi?
L'histoire du chant.
Pourquoi?
D'abord, il y a ce n'est pas que la voix est belle, parce que ce n'est pas une belle voix, Maria Callas. Ça, plastiquement parlant, faut oublier ça. Par contre, on disait qu'elle avait le théâtre dans la voix. Maria Callas est arrivée à une époque où, tout d'un coup, elle a révolutionné la façon d'interpréter et de chanter. C'est-à-dire qu'il y a mis du théâtre. Il y avait cette intensité, ce côté dramatique ou ce côté tragique, dans le fond, de tragédienne, qu'elle donnait au chant. En plus, qu'elle changeait sa voix pour chaque rôle qu'elle chantait pour être certain de bien incarner le personnage et qu'on ne mêle pas Rosine avec Amélie, avec autre truc ou quoi que ce soit, avec Lucia. Non, chaque rôle a sa personnalité. Et donc, ça tient de la folie d'être capable
et
de faire ça.
Et c'est une voix justement reconnaissable entre toutes.
Oui, exactement.
Même si elle n'est pas belle, comme vous le dites, elle réussit à chaque fois à nous toucher profondément.
Oui, exactement. On ne reste jamais indifférent. Et quand on tombe amoureux de la Callas, il n'y a plus rien qui est capable de
exact.
Elle est imparable, Maria Callas. Et il y a tout ce qu'elle fait, c'est fascinant. Et puis, il y a eu tout le beat autour. Mais en tant que cantatrice, en tant que tragédienne de l'art lyrique, elle est phénoménale. Il y en a une comme ça. Elle a beaucoup fait avancer l'art du bel canto. Elle a ressuscité beaucoup d'œuvres aussi, parce qu'à cette époque-là, le bel canto, on chantait autre chose. On chantait du Wagner, du français, mais du Bellini, puis du Donizetti, des Lucia, etc. C'était pas ses dates. C'était pas du tout ça qui était dans l'air du temps. Donc, elle a redonné vie à ces personnages. Elle a remis en valeur la beauté de ces pièces grâce à une interprétation qui est prodigieuse et qui permet justement de saisir le génie de tous ces musiciens.
Et la vie qu'elle a connue a sûrement nourri aussi cet anima, parce qu'elle n'a pas eu une vie facile, il faut bien le dire.
Non, non. Ou cet animal, parce que c'est une bête de scène, carrément. Et oui, c'était une vie difficile. Elle était intransigeante, exigeante. Oui, c'était difficile de la suivre, mais en même temps, quand on est génial, ben, c'est le prix peut-être à payer du génie. Beaucoup de gens l'ont suivi. Elle a eu des aventures amoureuses. Elle a perdu beaucoup de poids. Sa voix a été affectée. Sa carrière, c'est très court, dans le fond. C'est 10 ans, la carrière de Maria Callas. Et après ça, c'est fini, sa voix. C'est brisé. C'est plus du tout, ça fonctionne plus du tout. Mais Callas, ça reste encore aujourd'hui, au 21e siècle, ça reste la Callas et surmonté.
Et ce rapport quand même douloureux avec celui qui fut son conjoint, Aristothanasis, qui a, certains diront, brisé d'une certaine façon sa carrière, mais d'autres vous diront que peut-être que cette présence d'Aristothanasis a donné tout le coffre à cette voix. Alors, c'est paradoxal quand même.
Oui, effectivement, mais elle avait une personnalité quand même, même quand elle était jeune, 16-17 ans. C'est pas évident, là, quand on lit ses biographies, qu'on lit des lettres, etc. Évidemment, il y a
c'est une véritable diva.
Oui, oui, exactement. Dans tous les sens du mot, autant au sens d'exigence et de caprice aussi de la côtoyer et de ses contrats, que, effectivement, de cette déesse, c'est un phénomène en soi. Et on regarde ça, on regarde vers le haut, dans le fond, parce qu'elle a porté son art à un tel paroxysme de qualité et de beauté que c'est inégalé aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce que nous entendrons de la Callas?
Écoutez, du Gluck, un réformateur par excellence, tout juste avant Mozart, c'est « J'ai perdu mon Eurydice », tiré de « Orphée et Eurydice » de Gluck.
Thank you.
Maria Callas, et c'était l'Orchestre national de la radiodiffusion française sous la direction de Georges Prêtre, qui a été très présent, paraît-il, dans les enregistrements de la Callas. Oui. Avec nous, Pierre Vachon, de l'Opéra de Montréal. On va faire, si vous voulez, une petite incartade. On va sortir un peu de la musique dite sérieuse. Quoique lui, dans son domaine, il a, on peut le dire, assumé une part de sérieux à travers les propos qu'il a tenus, qui étaient parfois sombres, mais qui étaient aussi une invitation à la réflexion. Il s'agit de Léo Ferré. Est-ce que vous avez écouté beaucoup de Ferré quand vous étiez jeune? Parce qu'il fut une époque...
Non.
Plus tard.
On dirait que ça prend une certaine maturité pour apprécier les textes, les revendications de Léo Ferré, la profondeur aussi de pensée de Léo Ferré. Et je trouve ça... J'adore ces gens qui sont capables de provoquer, de nous faire réfléchir.
Oui.
On a perdu ce sens de la réflexion, de l'arrêt aussi. La musique, c'est un phénomène du temps. Et on n'a plus de temps aujourd'hui. Et ça, ça fait du bien d'entendre des gens comme Ferré ou autres qui, justement, nous rappellent des choses et puis surtout qui nous font réfléchir aux valeurs, revenir aux vraies valeurs des choses, de respect, de revendication. Oui, quand il y a des régimes politiques qui sont terribles, qui sont affreux, quand l'être humain est bafoué et il n'est plus respecté, il faut se rappeler des choses, les choses importantes de la vie. Alors ça, j'aime ce genre de musique-là, oui.
Ah, juste avant que nous entendions Ferré, est-ce que vous avez beaucoup navigué avec les chansonniers québécois?
Un certain temps, oui. Oui, tout à fait. Oui, il y a des gens, Paul Pichet à un certain moment donné, Gilles Vigneault aussi, j'aimais beaucoup ça, Fabien Thibault aussi, j'adorais ça, Diane Tell et tout. Oui, un certain temps, et puis ça a toujours été des gens où je me dis, tiens, il y a des chansons à texte, ça fait du bien, c'est pas juste. Puis en plus, ce n'est pas le quotidien, le banal qui est raconté. Moi, quelqu'un qui fait un gâteau, je me dis, bon, ça m'intéresse pas de le savoir, tout le monde peut le faire, mais quelqu'un qui prend le temps de poétiser sa réflexion, de réfléchir et qui nous apporte une lecture du monde autre, j'adore ça, puis il y en a plein de talents au Québec aussi.
Alors, je vais vous faire découvrir cette chanson que, me disiez-vous, vous ne connaissiez pas, de Léo Ferré, qui, effectivement, c'est une chanson à texte. Il nous décrit, et ça va vous rejoindre, vous qui êtes un amant de l'opéra, vous nous avez déjà dit que ce sont toujours des productions magistrales impliquant un très grand nombre de personnes, du technicien jusqu'à l'interprète sur scène, en passant par les musiciens. Léo Ferré nous parle de la scène et nous dit finalement que tout est magique sur une scène. On peut y trouver le pire et le meilleur, mais dit à la façon de Léo Ferré, sur la scène.
Sur la scène, il y a le silence, tout habillé de noir. Sur la scène, il y a une pute avec des yeux abstraits. Sur la scène, il y a le vent qui me raconte des histoires. Sur la scène, il y a mon cœur qui est prêt à chavirer. Sur la scène, il y a ta voix qui me revient d'outre-mer. Sur la scène, il y a ton ventre et j'y meurs chaque soir. Sur la scène, il y a ton style et tes façons de le faire. Sur la scène, il y a l'amour et mes façons d'y croire. Sur la scène, y a mes clopes que t'allumes à ton slip. Sur la scène, y a mes sous qu'on balance comme des cons. Sur la scène, y a des voiles qu'on prendrait pour tes nippes. Sur la scène, y a que dalle avec quelques chansons. Sur la scène, y a la mer qu'on prendrait pour la grève. Sur la scène, y a du faux qu'on prendrait pour de vrai. Sur la scène, y a le soleil qui a le droit de grève. Sur la scène, y a un mec qui sait pas maquiller. Sur la scène, il y a l'automne et du lin qu'on emporte. Sur la scène, il y a l'hiver et Molière qui fout le ton. Sur la scène, il y a le mois de mai qu'attend derrière la porte. Sur la scène, il y a l'été qui est mort, voilà 2 ans. Sur la scène, il y a l'Espagne qu'attend depuis 40 et qui se fabrique des mômes pour se sentir moins seul. Sur la scène, il y a Danton, le cœur sur la détente. Tout prêt à refoutre la merde avant qu'on ferme sa gueule. Sur la scène, y a Karl Marx et Wall Street dans sa traîne. Sur la scène, y a la bourse et l'âme des pauvres gens. Sur la scène, y a la vie et l'espoir qui se traîne. Et la mélancolie qui a pas fait toutes ses dents. Sur la scène, y a mon cœur qui bat ses camarades. Et ma môme en coulisses pour mieux se rappeler. Sur la scène, y a le diable encore en hit parade. Et qui bat les Beatles de quelques variétés. Sur la scène, y a des mots qui ne demandent qu'à se placer. Sur la scène, y a des airs qu'on l'air de n'en pas avoir. Sur la scène, y a la guerre et des fois, y a la paix. Sur la scène, y a tout ça et y a même un nanar. Sur la scène, y a des gosses qui font le moine Marie et qui foutent des pavés dans le tronc des connards. Sur la scène, y a Jésus qui fume des marronnés, qui se prend pour un beatnik avant de finir au quart. Sur la scène, y a ma joie maquillée en musique. Sur la scène, y a mon job qui a tout juste 20 ans. Sur la scène, y a Paname et sa claque et sa clique. Sur la scène, y a Popol qui me traîne depuis 12 ans. Sur la scène, y a une ombre qui m'a fait des souvenirs. Sur la scène, y a Pépé qui m'attend dans son trou. Sur la scène, y a des mains qui battent des sourires. Dans la salle, y a le public. C'est notre théâtre à nous.